Bienvenue sur les carnets du Pivert, le podcast qui picore à l'écorce de la littérature. Nous voici dans un épisode un petit peu spécial puisqu'il est consacré au hashtag Mais avec Balzac. Il s'agit d'un challenge organisé par Madame Irmali sur Instagram et qui nous invite à lire un ou plusieurs romans de Balzac au cours du mois de mai. Alors pourquoi le mois de mai? Tout simplement parce que c'est le mois anniversaire de Balzac et c'est pour ça qu'elle nous invite à nous y consacrer. Alors cette année, j'ai choisi le roman Le Cousin Ponce. L'année dernière, j'avais fait un vlog, une sorte de vlog podcast où j'avais rendu compte de mes différentes lectures de Balzac au cours du mois de mai. Mais alors cette année, j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre, tout simplement parce que je suis dans une sorte de panne de lecture. Il a fallu que je me mette un coup de pied aux fesses pour vraiment m'y mettre et pour lire le roman qui fait environ 450 pages. Alors ça a l'air pas beaucoup comme ça, mais moi ça m'a semblé très long. Alors pas long parce que je me suis ennuyée, hein, mais long parce que j'ai du mal à lire en ce moment. Alors, plusieurs informations sur Le Cousin Ponce. Le Cousin Ponce est un roman, qui a été publié en feuilleton en 1847 et qui a été publié en volume la même année. Il fait partie des scènes de la vie parisienne, et plus particulièrement de la section Les parents pauvres, et il peut être mis en parallèle avec La Cousine bête. Visiblement, ces deux romans se répondent, mais je ne peux pas vous en dire plus puisque je n'ai pas lu La Cousine bête. De quoi parle Le Cousin Ponce? Le Cousin Ponce met en scène un personnage qui s'appelle donc Ponce, Sylvain Ponce, qui est un musicien pauvre, mais passionné par deux choses. D'abord par la bonne bouffe, hein, la bonne nourriture, ce qui le conduit en tant que pauvre à jouer le rôle de pique-assiette auprès des membres de sa famille, en particulier les Camusot. Et son autre passion dans la vie, c'est la Chine. Alors pas le pays, hein, mais la Chine, la brocante, ce qu'on appelle à l'époque le bric-à-brac. Il vit avec son ami Schmucke, qui est un musicien allemand, et tous les deux vivent assez chichement. Le cousin Ponce, par son goût de la nourriture, est donc obligé de subir pas mal d'humiliations pour pouvoir être accueilli à la table de ses parents. Et à la suite de plusieurs blessures à cause des perfidies des membres de sa famille, Ponce tombe gravement malade et est en train de mourir. C'est là qu'on découvre que toute sa collection de bric-à-brac vaut une petite fortune. Évidemment, ça va déclencher autour de lui une vague d'avarice et de désir de posséder cette collection. Alors, pas du tout pour la collection en elle-même, hein, mais pour l'argent qu'elle pourrait rapporter. Et donc, vont rentrer dans cette espèce d'octogone du 19e siècle la concierge, Madame Cibot, qu'on appelle la Cibot dans le roman. Donc pourquoi la concierge? Tout simplement parce qu'elle voudrait être couchée sur le testament. Le brocanteur, Raymond Inc. Le collectionneur, Elie Magus. Donc le collectionneur Magus, c'était finalement le grand adversaire de Ponce en matière de brocante. Et puis d'autres personnages qui vont se greffer, comme l'avoué Fraisier et le médecin Poulain, tout simplement parce qu'ils vont prendre parti à des espèces de complots, de mise en scène, des espèces de pièges qui vont se tendre au fur et à mesure pour que chacun puisse tirer parti de cet héritage, et en particulier les Camusot. Parce que, évidemment, cet argent-là, au 19e siècle, bon, c'est un peu comme aujourd'hui, hein, permettrait à chacun d'améliorer ses conditions de vie. Alors, il y a une citation, moi, qui m'a vraiment frappée dans le roman. Je vais vous la lire parce que vous allez voir qu'elle est représentative des enjeux du roman. Ici commence le drame, ou, si vous voulez, la comédie terrible de la mort d'un célibataire, livré par la force des choses à la rapacité des natures cupides qui se groupent à son lit. Dans ma très très vieille édition, on trouve ce passage, page 239. Mais moi, le terme qui m'interpelle dans cette citation, c'est comédie terrible. Parce qu'effectivement, ce qui se joue ici est une comédie, cruelle, mais une comédie quand même. Alors avant de rentrer dans les détails à propos de cette comédie, je vais vous parler un petit peu de la structure du roman. Alors c'est une structure assez éclatée, pas du tout resserrée sur le personnage de Ponce. Il ne faut pas se dire qu'on suit que ce personnage, qu'il est au centre de l'histoire. Il est là, ça se joue autour de lui, mais il n'a pas forcément la place d'un personnage principal. Finalement, ce roman va plutôt être une galerie de portraits de personnages de la société, de personnages types, hein, comme toujours chez Balzac. Mais chaque personnage va montrer les différents enjeux de son rôle dans la société. Alors, donc tout le début du livre est consacré à cette galerie de portraits. Donc, ça se fait de façon assez fluide, hein, puisqu'on glisse d'un personnage à l'autre, un peu de façon cinématographique. Mais on en apprend plus. Et alors, pourquoi est-ce que Balzac prend ce temps assez long et qui ralentit évidemment le rythme du roman pour faire cette présentation? Eh bien, tout simplement parce que cela met en place les intrigues. Et cette multiplicité des personnages doit être expliquée de façon à montrer l'engrenage dans lequel entre chacun d'entre eux pour obtenir une partie du butin. À la suite de cette présentation, et au moment où Ponce va mourir, évidemment le récit va s'accélérer progressivement pour rentrer dans un rythme plus ou moins effréné à la fin, qui peut rappeler les rythmes des tragédies, puisque on sait déjà comment ça va se finir, plus ou moins. Et on ne voit que l'engrenage vers la fin, cet engrenage fatal dont on ne peut pas sortir, en fait. C'est pour ça que je rapproche ça un petit peu de la tragédie. Alors, je vais revenir sur cet aspect de comédie. Ici, c'est pas une comédie où on rit, pas du tout, hein. C'est plutôt une comédie où on ronge son frein. Mais c'est un roman dans lequel on trouve tous les personnages ridicules, même les personnages principaux comme Ponce et Schmoke. Ponce et Schmoke incarnent des valeurs plutôt positives autour de l'amitié et de la sensibilité, mais ils sont aussi ridicules par bien d'autres aspects, en particulier par leur naïveté et leur laideur. Évidemment, tous les autres personnages sont ridicules pour bien d'autres raisons. Ça peut être par la bêtise, ça peut être par l'avarice, ça peut être par la perfidie, etc. Tous les personnages sont quasiment négatifs, à part un. Un personnage au grand cœur et vraiment lumineux qui apparaît à la fin, mais je peux pas vous en dire plus sans tout divulgâcher. Alors, ces personnages ridicules dressent un portrait de la société qui est assez intéressant parce que moi, les romans de Balzac que j'ai lus pour l'instant, ils se focalisaient sur un aspect, une partie de la société parisienne et de la société du 19e. Alors que là, on a une sorte de coupe transversale plutôt du bas de la société, puisqu'on a des personnages issus du peuple, hein, avec la concierge, l'auvergnat, et puis d'autres personnages qui font partie des personnages pauvres, hein, comme le médecin, qui de façon assez surprenante est pauvre, ainsi que l'avoué, qui est un personnage pauvre à la suite on va dire, d'une mauvaise action. Donc on voit bien que ce qui unit ces personnages, c'est l'argent. Et c'est là que c'est assez intéressant, parce que finalement c'est un roman sur l'argent, comme beaucoup de romans de Balzac et comme beaucoup de romans de Zola, alors même qu'il y a un arrière-fond sur l'art. Il y a beaucoup de romans de Balzac aussi autour de l'art, mais là c'est assez troublant de voir que finalement l'art est omniprésent mais jamais abordé vraiment. Puisque Schmucke et Ponce sont deux musiciens, et des musiciens de talent. D'ailleurs, Schmucke, l'allemand, est caractérisé par cette sensibilité. On pourrait rapprocher de la sensibilité du romantisme allemand. Et donc, Ponce et Schmucke sont deux personnages très sensibles, avec beaucoup de valeurs morales. Et Ponce est aussi un collectionneur d'art. Alors, on ne le voit pas trop au début du roman, mais rapidement, on s'aperçoit qu'il a l'œil et qu'en fait, le bric-à-brac qui est méprisé par l'ensemble des autres personnages est en fait une collection digne d'un véritable musée. Ce qui veut dire que Ponce avait beaucoup de goût esthétique et artistique pour dégoter ses œuvres d'art pas très chères. Et finalement, moi, je me suis demandé si cet arrière-plan de l'art n'était pas là pour expliquer le décalage entre Ponce et Schmucke d'un côté et la société de l'autre. Ces deux personnages ont l'air complètement à côté de la société, complètement inadaptés à la société. Et je me suis demandé si c'était pas justement l'art qui était, non pas le déclencheur de ce rejet de la société, mais plutôt un indice du décalage, parce qu'ils sont plus sensibles, ils ont accès à une autre dimension, peut-être, de la vie, qui fait qu'ils sont inadaptés. Donc ça, c'était une de mes premières interrogations. Il y a une autre interrogation, évidemment, sur cette amitié entre Ponce et Schmucke. Alors, dans le roman, ils sont appelés à plusieurs reprises les casse-noisettes. Alors, évidemment, c'est à cause de leur laideur. Apparemment, ce serait que le nez et le menton sont très rapprochés. Mais je me suis demandé si cette amitié fusionnelle entre ces deux hommes, cette amitié intense, n'était pas d'une certaine façon une image de l'homosexualité. Voilà. Alors, il n'y a rien dans le roman qui pourrait nous dire qu'ils sont homosexuels. Absolument rien. D'ailleurs, Ponce regrette de n'avoir jamais trouvé de femme parce qu'il était laid. Il n'y a jamais de... D'ailleurs, aucun des personnages ne suppose qu'il puisse être homosexuel. Mais voilà, moi, je me suis posé la question quand même. Autre aspect qui peut rentrer dans le thème de la comédie, évidemment, il y a le langage. C'est le premier roman de Balzac, je crois, où l'auteur essaye d'imiter des accents. Alors, il imite l'accent de Schmucke, l'accent allemand, ce qui rend les moments où Schmucke parle au discours direct assez difficile à lire, parce qu'il faut traduire, en fait. Hein. Alors, il ne faut pas traduire de l'allemand, mais il faut traduire son accent. Et puis, il retranscrit aussi l'accent de Rémoninck, qui est auvergnat. Alors, Rémoninck, il faut vraiment le rapprocher du personnage de l'auvergnat, par exemple, chez Astérix. On a le même accent un petit peu qui est rendu. Par contre, pour Rémoninck, au bout d'un moment, Balzac abandonne la retranscription de cet accent pour fluidifier le récit. Par contre, pas pour Schmucke, ce qui est aussi intéressant parce que ça souligne le fait qu'il est étranger. Ça va jouer un grand rôle dans l'histoire, ce fait qu'il soit étranger. Alors, je pense avoir fait le tour des éléments les plus importants. Alors, je tiens à vous prévenir de deux choses. La première, c'est qu'il ne faut pas du tout que vous attendiez à une fin heureuse. Alors, déjà, on est chez Balzac. Et ici, c'est vraiment une fin réaliste. C'est-à-dire que les belles histoires où les gentils gagnent à la fin, c'est pas du tout le cas ici. Donc ça peut créer beaucoup de frustration, d'énervement et de colère. Mais en même temps, c'est le principe du réalisme. L'autre chose dont je voulais vous prévenir, c'est à propos du personnage d'Elie Magus. Elie Magus, c'est un juif, c'est un collectionneur juif. Et comme beaucoup de juifs dans la littérature du 19e siècle, il a des caractéristiques proches de... comment dire... qu'on pourrait dire antisémites. C'est-à-dire que la plupart des juifs chez Balzac sont considérés comme avares, souvent ce sont des usuriers, ils sont rapaces, etc. On insiste beaucoup sur le physique des juifs. Alors, bon, déjà, il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Le fait que Balzac considérait que la physiognomonie était une science à l'époque, c'est-à-dire qu'on pouvait expliquer le caractère des gens par leur physique. Donc, évidemment, il y a des choses qui ont été reprises plus tard par l'antisémitisme. Hein. Il faut aussi se dire que la société du 19e était antisémite. Hein, c'était très fortement intégré à la société. Donc je ne voudrais pas que vous appeliez au boycott de Balzac ou à la censure de Balzac, tout simplement parce qu'il est un homme de son siècle. C'est d'ailleurs intéressant de voir comment on pensait au 19e, sans tout censurer, mais toujours en prenant de la distance et en constatant à quel point, j'espère, la société a évolué, que ces clichés-là ont disparu. Et d'ailleurs, que finalement, si aujourd'hui cela nous heurte, c'est bien que ça a évolué. Donc voilà, je voulais vous prévenir quand même de façon à ce qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation des choses. Remettez toujours les choses dans leur contexte. Ne bannissez pas un auteur qui n'est que le fruit de son époque. Voilà, il y a des choses chez certains auteurs qui sont mauvaises. Mais tout s'explique, beaucoup de choses s'expliquent aussi par des contextes. Voilà, donc je voudrais pas que vous révoltiez contre Balzac, que vous appeliez à brûler ses livres, etc. pour ça. Non pas que je dise que ce n'est pas important. je vous dis que c'est important. Mais voilà, je vous demande de faire la part des choses. Pour moi, Le Cousin Ponce est un bon roman parce qu'il dénonce d'ailleurs toute l'hypocrisie de la société parisienne. Il montre que toutes les catégories sociales sont concernées par cette hypocrisie et cet appât du gain. Et je pense que c'est la seule leçon à retenir de ce roman. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt dans vos oreilles.